messieurs les producteurs de cinéma sonore. Regardez-moi, regardez-moi encore. La tête au sandale, j'ai tout pour plaire, j'ai tout pour faire une vedette internationale.
Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Graphite 94.9. Ce matin, la matinale, nous allons parler informatique, mais pas seulement informatique. On va parler de services aux collectivités avec mon invité Emmanuel Vivet. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur notre antenne, bienvenue sur Radio Graphite. On va parler un petit peu de votre association qui propose un service aux collectivités. Ça s'appelle ADICO. Qu'est-ce que ça veut dire déjà ADICO pour commencer ?
Alors, ADICO aujourd'hui, ça veut dire Association pour le développement et l'innovation numérique des collectivités. Et si on fait un petit peu, on vient un peu dans le passé, quand ça a été créé il y a 30 ans, ça voulait dire Association pour départementale pour l'informatisation des communes de l'Oise. Comme quoi, je m'en souviens déjà plus. Mais on avait bien le O pour Oise au départ.
Donc à la base, ça a été créé par une dizaine de collectivités, de maires, de mairies, c'est bien ça ? C'est ça,
oui, tout à fait. Ouais. Oui. L'idée, c'était il y a 30 ans, les grosses collectivités étaient déjà informatisées, s'informatisaient, et l'informatique arrivait dans les petites collectivités. Une petite information quand même importante au départ, c'est qu'en France, quand on dit qu'on a 36 000 communes, on en a 32 000 qui ont moins de 3 000 habitants. Donc à partir de là, on voit la difficulté que l'on peut avoir dans les collectivités à avoir des compétences informatiques. Donc l'idée, il y a 30 ans, par une dizaine d'élus, c'est d'avoir effectivement eu l'idée de créer une association pour s'aider à s'informatiser.
Donc c'était quoi ? C'était innover, c'était rechercher de l'information, mutualiser les achats. C'était quoi exactement il y a 30 ans ? Puisque j'imagine aujourd'hui l'informatique est de rentrer dans la vie de chacun. Mais à l'époque, il y a 30 ans, c'était un peu... Il n'y avait même pas encore Internet.
Non, effectivement. Alors non, on n'était pas dans l'innovation. On était dans il faut que j'achète un PC, qu'est-ce qu'il faut que je prenne ? Et puis apparemment, je dois commencer à faire un peu de compta, un peu de paye. Les trois logiciels qu'on avait à l'époque, ce qu'on appelait nous les triptyques, c'était compta, paye, élection. Voilà. Donc en fait, commencer à informatiser et on commençait à parler, alors pas forcément des maths, mais transfert, si on parle de la compta, transfert aux impôts par exemple. Donc commencer à transférer des fichiers. Donc ça, c'était l'idée de départ.
Donc c'était faire les élections, renvoyer les informations des élections par exemple en préfecture, c'était un peu ce genre de choses. C'était quoi à l'époque ? C'était du Minitel, du Numéris, c'était quoi ?
Oui, on avait à l'époque c'était du Minitel pour la partie transfert. Et il y a 30 ans, on arrivait déjà sur les premiers PC. Et l'idée pour les listes électorales, tout simplement, c'était de les imprimer. En collectivité, on a eu des élections là dimanche. Et puis, quand on va voter, on a son fichier qui a été imprimé. Bon, voilà, c'était le début des impressions dans les collectivités.
Pourquoi la création d'une association ? Il y avait un manque de ce côté-là, il y avait un manque de la société civile. S'ils n'ont pas voulu créer une compétence en interne, d'un point de vue étatique, par exemple ?
En fait, on est sur le principe de la libre administration des collectivités locales.
Ça veut dire qu'elles font leur choix, en fait.
La collectivité locale est libre. Autant l'État s'organise... Alors, on parle de l'État, mais chaque ministère est à peu près autonome, même si on a une direction interministérielle au numérique. Mais pour les collectivités locales, on est basé sur la libre administration. Donc, chacun s'organise comme il veut. Mais après, c'est basé sur la même organisation qu'on a aujourd'hui. On a l'habitude de voir, par exemple, pour les ordures ménagères, un syndicat départemental. Pour l'électrification, en tout cas enfouir les réseaux électriques, on a un syndicat d'énergie. Pour la fibre qui est en train de se déployer, on a un syndicat qui gère ça. Et en fait, pour les usages, c'est pas forcément quelque chose de très courant. Et on a ni plus ni moins créé ça.
Alors là, aujourd'hui, vous proposez plein de services aux collectivités. Alors, c'est quel niveau de collectivité ? C'est aussi bien des départements, des mairies, des régions ? C'est à quel niveau que ça se situe ?
Alors, c'est vrai que 30 ans plus tard, on a 1950, on a bientôt les 2000 collectivités adhérentes à l'association. Donc, on a fait quand même un grand saut. Aujourd'hui, nos adhérents, ce sont des collectivités locales, principalement des syndicats divers et variés, syndicats scolaires, syndicats d'énergie, etc. Et des intercommunalités, communautés de communes, communautés d'agglomération.
L'équipe, parce que j'imagine qu'aujourd'hui, pour gérer autant de compétences, il faut du monde ?
Oui, on est 67 après et on a encore 3-4 postes là qui sont en cours de recrutement, quelques difficultés. Pour la rentrée de septembre, on sera une équipe de 70 personnes.
C'est quoi les profils ? C'est des profils de techniciens, d'ingénieurs, des profils de commercial ? Quel profil vous avez chez vous ?
En fait, on a différents métiers. Je pense que ça peut être intéressant à ce niveau-là de parler des métiers de la DICO. En fait, on a trois métiers. Un métier d'assistance à l'utilisation des logiciels. C'est-à-dire que là, j'ai des gens qui font de la compta, de la paye, des élections. Typiquement, samedi, j'avais de la permanence toute la journée pour des problèmes d'impression ou de gestion, des procurations et des choses comme ça. Donc là, on recrute des gens qui font de la hotline sur de la partie logicielle. Après, j'ai de la partie technique. Là, effectivement, ce sont des techniciens, alors soit des ingénieurs ou des techniciens informatiques, pas mal, enfin des alternants aussi, où là, bah, on installe, on maintient. Sur la partie technique, on fait aussi du développement, c'est-à-dire qu'on développe les sites web des collectivités. Là, on a relancé une nouvelle offre là, sur WordPress et en 6 mois, on a eu 100 sites qui sont en attente de publication.
Donc WordPress, pour les auditeurs qui sont totalement profanes, c'est un site, c'est un module qui permet d'administrer des sites et de le rendre un peu plus beau et un peu plus fonctionnel en fait. Il y a un back-office qui est déjà créé, on le lance du coup en front, donc à l'avant pour que les utilisateurs le voient, et on peut le paramétrer comme ça. C'est plus simple que d'aller dans le dur.
Bah, tout à fait, et sachant que pour les collectivités locales, parce qu'au final c'est la mairie qui va mettre à jour la brocante de dimanche ou les horaires d'ouverture, il faut que le back-office, la partie de mise à jour soit simple. Et l'intérêt pour WordPress, pour nous, c'est de pouvoir développer des sites. En fait, on a développé des modèles de sites et de pouvoir mettre comme ça en ligne des sites assez rapidement. Et puis que l'utilisateur soit autonome pour la mise à jour. Donc là, ça c'est la partie technique. Et depuis maintenant 2 ans, on a aussi une grosse activité. Donc la troisième activité, c'est ce que moi j'appelle la confiance numérique. Alors dans la confiance numérique, je vais dire plein de gros mots. Et je vais dire RGPD, RGS, RG2A, Open Data, sobriété numérique.
Les RGPD, les gens commencent à comprendre, je pense.
Alors, en fait, pour donner un peu de définition à tout ça, et pour parler recrutement juste avant, là, en fait, c'est surtout des juristes que l'on a, des gens qui sortent principalement d'Amiens en Bac plus 5, en droit, quelle que soit la spécialité. On a aussi des élèves avocats en permanence chez nous pour traiter tous ces métiers. En fait, l'idée, c'est la confiance numérique, c'est de dire aujourd'hui, on aime ou on n'aime pas, mais le numérique est partout. Donc, on va essayer de donner confiance au numérique. Et pour donner confiance au numérique, on va d'abord traiter du RGPD. Le RGPD, c'est qu'est-ce que je fais de ma donnée? J'ai laissé un numéro quelque part, j'ai laissé un nom, un prénom. Qu'est-ce qu'en fait la collectivité?
Ça, c'est pour l'utilisateur.
Ça, c'est pour l'utilisateur et pour la collectivité. En fait, la collectivité, la mairie, quand on parle de collectivité, elle détient énormément de données. Elle détient le nom de votre enfant, elle détient son régime alimentaire. En fait, elle détient. Et ce qu'on voudrait savoir, et ce qu'on veut dire à l'utilisateur, c'est qu'aujourd'hui, si la mairie détient de la donnée, c'est pour un usage. Et en fait, il y a une obligation des collectivités, c'est d'être transparent sur l'usage de la donnée. Et nous, on accompagne les collectivités à ce que la tenue du... Et puis après, on fait du RGS. Le RGS, c'est le référentiel général de sécurité. En fait, c'est les attaques informatiques. Voilà. Donc, en ce moment, il y a quand même pas mal d'événements. Donc, tout ça fait de la confiance numérique sur d'autres métiers qu'on va peut-être compléter après.
J'ai vu, en plus de ça, dans vos équipes, c'est plutôt mixte. Hein. Il y a autant de femmes. Alors, j'ai pas compté, mais il y a quasiment autant de femmes que d'autant d'hommes. C'est un métier qui est plutôt mixte, du coup, l'informatique et la gestion et l'information d'entreprise. Enfin, pas d'entreprise, aux collectivités.
Oui, alors, et même, c'est quelque chose qu'on met en avant quand on dit que le numérique est un métier d'homme. Moi, je réponds non. En fait, à la DICO, on a 60% de femmes. Alors, et aujourd'hui, des femmes sur tous les métiers. Alors, effectivement, si vous allez sur la partie technicien, vous ne trouvez pas, quand vous recrutez des femmes, vous n'avez pas de CV. Enfin, pour 100 CV, vous en avez un d'une femme. Par contre, tout ce qui est assistance à l'utilisation des logiciels, c'est principalement des femmes. Tout ce qui est droit, hein, confiance numérique, c'est pas mal de femmes. Et ce qui est important, et ce qu'on dit aussi, c'est que sur le ratio cadre-non-cadre, il y a plus de femmes que d'hommes aussi sur la partie cadre.
Vous, il y a une volonté au sein de l'association de porter ces métiers, de les féminiser et de recruter des femmes ?
C'est pas... en tout cas, ça s'est fait comme ça. Et maintenant, c'est un message que l'on porte. En disant aujourd'hui, il n'y a pas de métier d'homme, il n'y a pas de métier de femme. Et aujourd'hui, arrêtons de dire que le numérique... Parce que plus on dira que le numérique est un métier d'homme, moins les femmes oseront y aller. Donc ça veut dire que c'est effectivement quelque chose que l'on défend. Et on défend aussi notre ancrage. Alors effectivement, je suis content d'être à Compiègne et être à vous ce matin. La DICO est à Beauvais, même si moi je suis compiénois. Et c'est aussi un ancrage sur le territoire qu'on essaye de mettre en avant.
On le rappelle, c'est une association. Du coup, vous êtes salarié, vous êtes directeur général. Le conseil d'administration est bénévole. De qui se compose le conseil d'administration ?
Alors effectivement, association, donc qui veut dire... aujourd'hui, il y a 12 élus au sein du conseil d'administration. Donc ce sont... pour être élu, en fait, il faut être délégué de sa... Il faut être adhérent à l'association. Et ensuite, il faut être nommé délégué. Je représente ma commune au sein de l'association. Et ensuite, on pose sa candidature. D'ailleurs, en ce moment-là, jusque vendredi matin, il y a le vote en ligne. On a 3 élus qui renouvellent leur candidature, plus un nouvel élu. Donc ça veut dire que ce sont soit des maires, soit des maires adjoints. Alors, principalement des élus de l'Oise, mais maintenant que la DICO est sur 13 départements, on a 2 élus du Val-d'Oise et 1 élu de l'Eure au sein du conseil d'administration. Et ensuite, on retrouve effectivement un bureau, président, enfin, c'est assez classique dans une association, président, vice-président, trésorier, secrétaire. Et effectivement, moi, je suis salarié, directeur général.
Rechercher ces maires en tant que membre du conseil d'administration, c'est quoi ? C'est une envie de moderniser leur mairie, de proposer des nouveaux services ou je ne sais pas, peut-être qu'il y a une autre envie de la part de ces collectivités ?
Alors, il y a plusieurs choses, je pense. Il y a le fait de venir adhérer à l'association parmi les 1950 collectivités, ce qu'elles viennent chercher, et il y a le fait de pouvoir siéger au conseil d'administration. Je pense que le fait de siéger au conseil d'administration, c'est de rappeler que l'association a été créée par des élus pour des élus. Et c'est toujours intéressant, même pour moi, de me rappeler que j'ai un conseil, même si je suis directeur général, qu'on me fait toute confiance, que j'ai quand même un conseil d'administration qui, au minimum 4 fois par an, vient évaluer le travail qui est fait. En fait, c'est aussi un conseil de surveillance et qui va regarder un peu la stratégie. Alors forcément, il y a la partie financière, mais aussi la stratégie déployée et est-ce qu'on fait les bons choix. Ce qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est qu'on a été créé pour les petites et moyennes collectivités locales, mairies, mais même si aujourd'hui, on voit des collectivités de toute taille adhérer à l'association.
On va faire une courte pause musicale avec un titre qui s'appelle « Nouveau monde ». C'est le titre de Feu Chatterton. On se retrouve juste après.
Sur le pays, très chaudement, dans un bain de foule dévot, à moitié épaillé. On se mouillait mollement, la glace fondait dans l'air. C'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit. Serveur central. Nous étions pris, fait cerner. L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central. Thank you.
Feu Chatterton sur les ondes de Graphite 94.9, www.graphite.net. Ce matin, on parle de numérique. Et d'ailleurs, on vous parle de numérique. Eh bien, Graphite, bientôt, on va avoir un nouveau site internet. Et bien, justement, on va avoir un WordPress qui va être installé. On espère vous le proposer peut-être après les vacances. Beaucoup de changements prochainement. On reviendra à l'antenne pour vous en parler. Toujours en compagnie d'Emmanuel Vivet pour parler d'Adico 60, mais également on parlera après de la fédération qui regroupe toutes ces associations qui proposent la transition numérique aux collectivités.
Ouais, la transformation. Aujourd'hui, le mot, c'est la transformation numérique des collectivités.
Parce que la transition, depuis 30 ans, c'est une longue transition.
Là, on transforme maintenant.
Quelles sont les autres activités que vous proposez aux collectivités? J'ai vu qu'il y avait de la formation également.
Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, donc, on est aussi, on a ce qu'on appelle au sein de l'ADICO un institut de formation. Alors, la formation, elle a plusieurs niveaux. On forme déjà sur les logiciels que l'on propose aux collectivités, donc la formation sur de la compta, de la paye, des élections, etc. Et en fait, on a une plateforme d'assistance à l'utilisation. Et à l'année, on traite à peu près 30 000 appels, 30 000 demandes d'assistance, ce qui est assez élevé, ce qui fait à peu près une moyenne de 150 appels jour. Et en fonction des périodes, dès qu'on est le 15 du mois, il y a la paye, ça monte, dès qu'on est en période électorale, etc. Et en fait, on s'est aperçu que parmi les collectivités, les utilisateurs, il y avait un problème de formation continue. Et on s'est aperçu qu'aujourd'hui, on avait des gens qui manquaient potentiellement de formation.
Donc là, les utilisateurs, c'est les gens dans les mairies, hein. ce ne sont pas les citoyens.
Tout à fait. Ce sont le seul public que l'on connaît, ce sont les collectivités. Et donc, quand je parle d'utilisateurs, effectivement, ce sont les agents des collectivités. Et donc, en fait, on propose de la formation à la fois sur le métier et en partenariat avec le Centre de gestion de la fonction publique, on appelle nous le CDG 60, j'ai donné la définition juste avant. En fait, on propose de la formation aux demandeurs d'emploi pour devenir secrétaire de mairie. En fait, en 5 ans, c'est une fierté, j'avoue, que l'on a, c'est qu'on a offert un emploi intéressant et passionnant à 100 personnes. On est aujourd'hui à une centaine de personnes qui sont en poste en collectivité locale et qui ont suivi un parcours. En fait, la formation, elle dure 42 jours, plus 3 semaines de stage. Donc, en ce moment, on a un parcours. Les gens vont partir en stage en fin de semaine. Les diplômes, en fait, il y a à la fin un entretien, un diplôme qui est remis. Il va être remis mi-juillet. Et ensuite, les personnes intègrent le centre de gestion de la fonction publique sur ce qu'on appelle l'intérim territorial. C'est une agence d'intérim, mais publique. Ou alors, sont directement recrutés en collectivité. Mais comme aujourd'hui, en collectivité, on manque de personnel. Et on manque de personnel formé. En fait, elles passent... C'est principalement des femmes. Elles passent très peu par l'intérim territorial et sont directement recrutées en collectivité. Aujourd'hui, de toute façon, on n'a pas formé assez de personnes. En fait, avec la crise sanitaire, on a dû annuler un cycle. Un cycle, c'est généralement entre 12 et 15 personnes. Donc, en fait, il nous manque aujourd'hui entre 12 et 15 personnes. Donc là, on a redémarré. On a mis dans la salle que 10 personnes pour tenir compte des conditions sanitaires. Et on sait que les 10 personnes auront déjà un poste à la sortie. Et on redémarre une nouvelle formation dès le 1er septembre.
Là, pour les gens qui sont intéressés par cette formation, où est-ce qu'on trouve des informations? Sur votre site internet? Est-ce qu'on passe par pas la NPE? Ça s'appelle plus la NPE aujourd'hui,
par
Pôle emploi.
En fait, oui. Aujourd'hui, la façon dont ça s'organise, c'est le recruteur, enfin la personne qui fait les entretiens, c'est le centre de gestion de la fonction publique, qui, en partenariat avec Pôle emploi et Cap emploi, pour la partie handicap, sélectionnent, font des jurys d'entretien, font des réunions d'information. Alors, dans l'ordre, c'est des réunions d'information pour expliquer ce qu'est le métier. Pourquoi faut être véhiculé, je vais l'expliquer après, et puis quels sont les minimums de connaissances. Ensuite, il y a un jury d'entretien et on sélectionne entre 10 et 15 personnes. Et ensuite, nous, on les reçoit pour les former. On prend en charge l'intégralité de la formation. La partie véhicule, pourquoi c'est important? C'est qu'en fait, quand on voit les collectivités, aujourd'hui, il existe dans les collectivités petites et moyennes peu de temps plein. Ça veut dire qu'une personne qui souhaiterait faire 35 heures, elle a entre 2 et 3 communes. Donc ça veut dire que le matin, entre 8h et 11h, je serai dans la mairie A, et puis je reprends à 13h dans la mairie B, et puis je retournerai, voilà. Et c'est un peu ça, ce métier, contrairement à des villes comme Creil, Compiègne, Beauvais, où quand vous êtes agent d'état civil ou dans le service paye, vous êtes là du lundi au vendredi, et vous faites l'ensemble de vos heures sur un métier. La différence dans une petite commune, c'est que vous avez un agent qui fait compta, paye, élection, état civil. Et là, je pourrais comme ça lister tous les métiers de la collectivité.
C'est des fonctionnaires à la fin ? Ils ont le titre de fonctionnaire ou c'est des CDI, des CDD ?
Alors oui, c'est ce qu'on appelle des contractuels. Okay. En fait, quand ils sortent là, de la formation, c'est des contractuels sur une période longue. Ils peuvent être CDIsés, mais ce qu'on les incite, c'est à passer les concours. Avec la possibilité, en fait, dans la fonction publique, de passer des concours internes ou des concours externes. Si aujourd'hui, vous ne travaillez pas en collectivité, vous passez un concours externe. Si vous travaillez en collectivité après un certain nombre d'années, vous avez la possibilité de passer sur la partie concours interne.
On a parlé de l'accompagnement également. Vous accompagnez sur la communication. Qu'est-ce que vous proposez sur la communication ?
Alors, ça fait partie des nouveaux métiers. Alors, aujourd'hui, quand j'ai présenté la DICO, j'ai dit « i » comme innovation. On essaye de ne pas arrêter l'innovation et l'innovation est continue. En fait, au sein de la DICO, on a un service communication qui est composé de deux personnes, plus une personne en alternance, pour les propres besoins de la DICO. Sauf qu'on s'est aperçu qu'on avait des collectivités qui nous ont dit bah, « ce que vous pourriez me déposer ?» Vous êtes en train de refaire mon site, mais je n'ai pas de logo. Ou alors, il n'est pas exploitable. Ou alors, vous êtes en train de refaire le site, on nous envoie les photos et les photos, globalement, elles pixelisent. Donc, en fait, au départ, on leur a dit, écoutez, bah, on va venir vous faire les photos. Le logo, il n'est pas exploitable, donc on va le refaire. Et puis, on s'est dit, mais tant qu'à faire, bah, proposons-le. Donc, aujourd'hui, en fait, on fait de la charte graphique, on fait du logo, on fait de la création de pages sur les réseaux sociaux. Et on fait des photos et on est aussi on est pilote de drone, enfin on a aujourd'hui un agent qui est télépilote, on est équipé et ça veut dire qu'en fait on fait ça, c'est quelque chose qu'on a créé il y a quelques années mais qui démarre bien. Soit c'est de la communication, c'est-à-dire qu'on vient prendre en mairie la photo de la ville sous la neige parce que ça plaît à mettre sur un site, ou alors quand il fait beau, quand il y a un beau ciel bleu. Ou alors aussi quand il y a des travaux. J'ai souvenir d'un rond-point en construction sur lequel on est venu prendre des photos, d'une mairie qu'on est venu photographier au début quand il n'y avait rien, un terrain, et à la fin quand la mairie est inaugurée. Et on a fait aussi de l'entretien des berges pour une rivière. C'est-à-dire qu'en fait, le syndicat qui s'occupait de ça ne savait quand est-ce qu'il fallait aller envoyer des techniciens pour aller couper les branches. Et donc en fait, le drone, il est parti du pont, il a descendu la rivière à droite, à gauche, il est remonté, on a exploité les données.
Également, les réseaux sociaux, c'est très important aujourd'hui pour les collectivités. Aujourd'hui, elles sont présentes sur Facebook, sur Twitter, principalement sur Facebook. Maintenant, certaines sur Instagram. C'est un peu une évolution du métier. C'est facile à leur faire prendre le pas.
Alors, oui, on bénéficie avec les dernières élections municipales, comme à chaque fois, d'un renouvellement et de personnes qui arrivent avec une volonté de communiquer un petit peu plus. Ça veut dire qu'on a beaucoup de collectivités qui se lancent, alors qu'on n'a pas forcément d'ailleurs besoin de nous pour se lancer. Certains, on les accompagne. Et on les accompagne aussi sur la partie RGPD, parce qu'il y a quand même des liens sur ce qu'ils peuvent publier. Et puis, il faut faire très, très attention en période électorale. On a aujourd'hui quelques dossiers liés aux élections municipales où il y a des usages, des publications. Donc on fait des rappels sur ce que l'on peut faire et ce que l'on a droit de faire sur les réseaux sociaux.
Ouais, par exemple, en période électorale, les gens qui sont candidats ne peuvent pas apparaître sur les photos postées par les mairies, par exemple.
Oui, et puis ne pas utiliser la page pour sa propre... Enfin, comment est-ce que la publication que je viens de faire il y a deux jours est une publication sur un service de la ville ou mettant en avant... le profil du maire à la fois candidat.
Justement, la frontière entre le profil personnel ou professionnel maire-mairie et le profil un peu de l'entité mairie, il y a une différence aujourd'hui. Est-ce qu'un maire peut communiquer sur sa mairie, enfin sur son action, sur sa page perso, entre guillemets, même si c'est au nom de sa mairie ? Parce que ma question était claire.
Oui, c'était clair, mais en fait, oui, tout est possible. La question, c'est quand on arrive effectivement sur la période électorale où j'ai en tête, pas sur les dernières élections, mais l'élection d'avant, des élections qui ont été invalidées dans l'Oise pour un problème de publication sur une page qui était une page au nom d'un élu, mais qui pouvait faire penser que c'était quand même la page officielle de la mairie. Donc il faut faire très très attention sur ces périodes-là.
Là aujourd'hui, sur l'équipement, vous proposez des choses en open data, en logiciel libre. Est-ce que vous avez un accompagnement comme ça ? J'ai vu que vous proposez la suite Microsoft. Est-ce qu'aujourd'hui, les collectivités demandent de passer peut-être à Linux ou à des choses un peu moins traditionnel.
Alors c'est un vaste débat. L'ADICO est adhérent de l'ADULAC. L'ADULAC, c'est l'association nationale qui met en avant les logiciels libres pour les collectivités. Et d'ailleurs, l'ADICO, tous les ans, candidate au label Territoire numérique libre, qui est un label qui va jusqu'à 5 arrobases. Et on a, nous, les 4 arrobases, on a encore une étape. La prochaine étape, c'est qu'on puisse produire nous-mêmes des solutions libres en logiciel libre. Alors, on essaye. La difficulté aujourd'hui, c'est que dans l'usage, effectivement, Microsoft et la suite Office 365, qui cela étant est quand même très performante, est beaucoup utilisée par les collectivités, est très intégrée avec les logiciels métiers. Si vous prenez un logiciel de comptabilité et que vous allez fusionner avec un document, essayer d'aller fusionner avec un logiciel libre, c'est plus complexe pour une utilisation lambda. Je ne parle pas d'un utilisateur averti. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de solutions qui sont des logiciels libres. Je vais penser aux parapheurs, alors peut-être des mots un peu barbares, mais des parapheurs électroniques, des tiers de télétransmission. Tout ça, ce sont des logiciels libres. Et l'ADICO s'est aussi lancé dans le développement de ses propres solutions. Par contre, sur ces développements-là, c'est la volonté est claire et affichée. Ce sont des logiciels libres que l'on développe. Je vais donner un exemple. On a créé notre propre chatbot.
Le chatbot sert...
L'agent conversationnel. Ouais.
Sur Facebook, par exemple.
Alors, lui, par exemple, il est sur le site juste à côté de chez nous, à Clairoy. Quand vous allez sur le site de Clairoy, vous allez voir, il y a un petit meunier, c'est le personnage. Et puis, le meunier va répondre à des questions. Il va vous dire quand est-ce que la mairie est ouverte, qu'est-ce qu'il faut comme papier, etc. Donc, notre agent conversationnel, c'est une solution libre qui d'ailleurs est référenciée au niveau national sur le site de la DINUM. Alors, la DINUM, c'est la Direction interministérielle au numérique et qui ont mis en ligne un catalogue de solutions pour les collectivités. Et le chatbot est référencé comme un logiciel libre. Alors, attention, je mesure les choses. Aujourd'hui, il y a des licences, il y a un licensing autour des logiciels libres et qu'on est sur une licence. On est en train de développer, en fait, toute cette partie-là. Voilà, la solution vient de sortir.
Donc, la licence, ça veut dire qu'en gros, la société est quand même une petite partie, mais la communauté du logiciel peut le développer librement. On peut faire une modification à l'intérieur.
Oui, voilà. En fait, la licence que l'on va prendre, c'est effectivement celle-ci, où derrière, on va dire à la collectivité, si tu veux, tu peux trouver la solution sur une forge, hein, dès qu'on aura publié. Par contre, si tu veux qu'on t'accompagne pour déployer et répondre et t'aider, là, effectivement, il y aura un coût à l'hébergement. Parce que l'hébergement de la solution et la sécurisation de la solution, de toute façon, elle a un coût. Je voulais, en parlant de logiciel libre, donner l'exemple de Decidim. Alors attention, Decidim, en fait, c'est une solution qui a été créée par la mairie de Barcelone. En fait, c'est la démocratie participative. L'idée, c'est d'interroger, parce que dans la période, dans le fonctionnement des collectivités, on interroge les citoyens, si on peut appeler ça une interrogation, dans le cadre des élections, une fois de temps en temps. Sauf qu'en fait, il se développe quand même beaucoup de consultations. Et la mairie de Barcelone a développé un logiciel libre qui s'appelle Decidim, qui maintenant est utilisé quand vous allez sur le site du Sénat, quand vous allez par le site de la métropole lilloise, quand vous allez sur pas mal d'organismes comme ça. Et l'ADICO, en fait, a internalisé, a récupéré la solution sur une forge. Donc voilà, un logiciel libre. Et la solution, depuis maintenant un mois, enfin, on va généraliser à partir du mois de septembre, est à disposition de nos adhérents. Et encore une fois, On a notre bêta-testeur favori, c'est la mairie de Clairoy. Et quand vous allez sur clairoy.participer.fr, en fait, la mairie de Clairoy est en train d'interroger jusqu'à fin août sa population. Il y a une trentaine de questions sur le jour du marché. Est-ce que c'est la bonne journée? Sur est-ce que les horaires d'ouverture de la mairie sont... est-ce que c'est bon? Est-ce que ça correspond à la vie des citoyens? Voilà, il y a une trentaine de questions comme ça. Donc, en fait, l'idée, c'est de profiter comme ça de choses qui sont développées par d'autres. À la différence que si nous, on devait développer quelque chose sur Decidim, on le remettrait dans la communauté.
C'est une volonté de M. Portebois, le maire de Clairoy. Alors pourtant, il a une soixantaine d'années, je crois. Est-ce que c'est sa volonté de moderniser, de numériser sa commune, ou c'est une volonté du conseil municipal, ou est-ce qu'il y a une personne en fait référente là-dedans?
Alors, il y a une belle équipe au niveau du service communication des élus qui sont motivés et moteurs dans ça. Et c'est vrai que quand on a cherché une collectivité tester aussi la solution Decidim, pour nous, c'était le premier déploiement, démocratie participative, l'initiative, j'ai rapidement appelé le maire en lui disant, bon, voilà, j'ai encore quelque chose à vous proposer, est-ce que vous êtes intéressé? Alors, l'intérêt, c'est qu'il répond oui ou il répond non. Et assez rapidement, il nous a dit oui, ben, ça m'intéresse. D'ailleurs, ça m'intéresse doublement parce que, dans mon programme, lorsque j'ai été réélu, en tout cas l'équipe, on s'était engagé à le faire. Donc, on devait le faire. Donc, en fait, on a apporté une solution. De toute façon, ils allaient chercher quelque chose pour le faire.
La mairie de Marny s'est lancée dans un budget participatif. Il y a aussi une volonté. On peut le faire directement sur Internet. C'est sécurisé.
Oui, tout à fait. Dans les fonctionnalités de cette plateforme Décidim, c'est soit comme ça des questions, soit du budget participatif. Alors après, il y a toute une question qui peut voter. Donc ça, ça fait partie du paramétrage de la solution. Soit vous dites, j'offre le vote à tout le monde, que j'habite ou pas la commune. Ça peut être trompeur, mais en tout cas, c'est le cas. Ou alors, vous devez prouver votre identité. Alors, pour prouver l'identité, vous pouvez demander à la personne d'amener la PJ de sa carte d'identité ou d'un justificatif de domicile. Il y a des grosses questions RGPD derrière, mais c'est quand même bien, c'est très bien traité dans la plateforme. C'est-à-dire que vous dites, moi, Vivet Emmanuel, je veux voter dans telle mairie pour un budget participatif, donc je vais prouver que j'habite la commune. Si je n'habite pas, ma candidature n'est pas validée, je ne pourrai pas voter.
Il y a des passerelles possibles avec France Connect ou avec ce type d'applications qu'on peut retrouver qui sont connectées directement à nos impôts, par exemple?
Alors, c'est une bonne remarque parce que quand je parlais tout à l'heure, si on devait, nous, sur une solution libre, co-développer, ça fait partie des choses que l'on souhaite faire. Et si on le fait, on le remettra dans la communauté. Parce que l'intérêt, effectivement, de l'identité, on va parler identité numérique et de France Connect, c'est que votre identité, tout à l'heure, je parlais du justificatif de domicile, en fait, que votre justificatif, votre domicile, soit prouvé par quelqu'un d'autre. En fait, il peut être prouvé par qui? Il peut être prouvé par un fournisseur d'identité. Fournisseur d'identité, ça peut être la Poste, ça peut être les impôts, ça peut être Amélie. Tout ça, ce sont des gens qui peuvent prouver que vous habitez bien telle adresse. Ça veut dire que demain, quand vous allez vous connecter sur participer.macommune.fr et que c'est limité aux habitants, on vous dira, OK, est-ce que tu veux créer un compte ou est-ce que tu veux cliquer sur France Connect. Et à partir du moment où je clique sur France Connect, on vous dira « Ok, mais qui est ton fournisseur d'identité ?»
Ce qui est le cas aujourd'hui, si vous avez fait par exemple une procuration pour les élections, directement vous passez par France Connect, les impôts, enfin voilà ce que vous voulez. Donc pour les prochaines élections de ce week-end, vous pouvez faire une procuration comme ça.
Oui, tout à fait. Ça, c'est des choses sur lesquelles on pousse les collectivités sur deux choses, à intégrer France Connect sur leurs solutions. À quoi ça sert quand vous allez inscrire votre enfant à la cantine scolaire, à la mairie? France Connect, ça vous permet de ramener un sien, puisque la mairie va avoir besoin de connaître votre niveau de revenu si la tarification est basée sur un barème. En fait, cette information, on l'a déjà. Et l'autre chose qu'on essaie de pousser, c'est les API. Alors attention, et l'API particulier. En fait, l'État, dans sa stratégie BetaGouv, met en place, propose aux collectivités d'ouvrir ces données. L'État est propriétaire de plein de données. Et si je prends l'exemple de l'API particulière, elle est intéressante, parce que quand vous allez en mairie, on va vous demander plein d'infos. Moi qui ai, mon quatrième enfant est encore en école primaire, et quand il a fallu que je réinscrive à la cantine scolaire pour l'année prochaine en primaire, on m'a demandé une nouvelle fois une copie de ma carte d'identité, mes impôts, mon numéro CAF, un justificatif de domicile. Mais ils ont tout déjà. Ça veut dire que l'intérêt de l'API particulier, c'est qu'en fait, mon numéro CAF, c'est la mairie qui va taper sur les serveurs de la CAF, ils vont le récupérer. Mes revenus, ils l'ont par l'API qui va taper les données de Bercy. Donc en fait, la prochaine fois, si l'API particulier est déployé, j'arrive, je dis bonjour, je m'appelle Vivet Emmanuel, j'habite Compiègne, et basta.
Il y a une réticence des administrés sur ce... On laisse beaucoup de traces sur les sites propriétaires, Facebook, Google, etc. Est-ce qu'il y a une réticence pour les collectivités de dire, en fait, tout est centralisé? En fait, on le sait déjà que l'État sait déjà tout, mais est-ce qu'il y a une réticence par rapport à ça?
C'est pas tellement de la centralisation dans le sens où, effectivement, on va chercher une information fiable à un moment et l'information, on la ramène et c'est tout. Donc, on va exploiter une information fiable et puis, en plus, on fiabilise la donnée. Est-ce qu'il y a une réticence au niveau des citoyens? Je pense que quand on aura informé le citoyen en lui disant « ici, on utilise l'API particulier, mais qui est conforme au RGPD », ça veut dire qu'effectivement, on laisse déjà tellement de données qu'aujourd'hui, on sait que la donnée sur laquelle on va l'accéder pour un usage particulier. Ce qu'il faut bien expliquer, c'est qu'en fait, quand on utilise une donnée par rapport à un usage. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une question de culture, de culturation aussi de la part des services informatiques des collectivités. Et c'est là où nous, on accompagne aussi nos adhérents.
Emmanuel Vivet, on rappelle, vous êtes directeur général de ADICO, président de l'association également Déclic. On en parle juste après de cette association Déclic. On écoute tout de suite Gaël Faye, Lundi Méchant, même si aujourd'hui on est jeudi, et ça sera le titre Lundi Méchant.
Comment ça va lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, bien dormi, le week-end bien passé, t'as glandé la famille, les enfants, les amis, le barbecue annulé par la pluie. Est-ce que ça va? T'es sûr que ça va? Tu me caches pas quelque chose que je devrais savoir? Un divorce, un cancer, ta belle-mère, une mauvaise dépression, le moral est-il bon? Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant, comme un lundi. Comme un lundi, comme un lundi méchant. Et chaque semaine on reprend la rengaine en se disant demain sera peut-être mieux. On affronte et combat certains problèmes en achetant de petites pilules bleues. On n'est pas toujours aussi fort qu'on veut l'être, on essaye de faire comme l'on peut. On court après le bonheur à tout prix, le lundi au soleil, le moral est plus vieux. Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi. Semaine s'achève au compteur, s'ajoute, on en parle de crise et tout le monde à la frousse. On s'endort dans des volutes de drogue douce pour oublier que tous les jours l'état des trousses. On se console en consommant notre confort, nous rend souvent si seuls et puis sans solution. Chaque dimanche revient ce cafard incessant, demain lundi sera méchant.
Je vais pas me laisser démonter, et bad vibes et morosité, et pas se contenter mais tenter, et sinon t'es inventéré, et chauffer, chauffer, va-t'entendre les pulsations dans tes tympans, oh. Chanter, chanter, c'est qu'encore, écouter, goûter l'ami méchant.
Gaël Faye sur les ondes du 94.9 www.graphite.net. C'est la matinale, on est ensemble encore pendant une petite demi-heure, toujours en compagnie d'Emmanuel Vivet pour parler de transition numérique, de collectivité, de plein de mots barbares. J'espère que c'est plutôt facile pour les gens qui ne s'y connaissent pas du tout en informatique. Il y a plein d'acronymes. Vous en sortez tous les jours avec tous les acronymes qu'il y a dans vos métiers?
On essaye, lors des dernières élections municipales d'ailleurs, on avait sorti un lexique des 200 mots du numérique territorial que l'on avait édité en 20 000 exemplaires au niveau national, pour justement expliquer en disant aux élus, mais intéressez-vous à ces acronymes, effectivement, c'est barbare comme à souhait, mais en tout cas, on va essayer de définir tout ça.
Pour Adico, c'est quoi l'avenir? C'est quoi les solutions prochaines qu'on ne connaît pas encore et que peut-être vous avez déjà identifié?
En fait, la grosse question demain, c'est le passage en mode cloud de l'ensemble des solutions et la partie hébergement. En fait, on l'a vu avec la crise sanitaire et le besoin de télétravail. Quand vous êtes en collectivité, que vous êtes sur un PC fixe et que votre logiciel est rattaché à un serveur et que votre armoire dans lequel vous allez trouver les délibérations ou tout ce que vous avez besoin, bah pour vous mettre en télétravail, c'est un petit peu plus compliqué. Donc en fait, il y a un gros travail sur la partie cloud et un gros travail sur la partie numérisation de l'activité.
Le Covid, ça a été un accélérateur de la numérisation des collectivités avec justement le fait de pouvoir bosser à la maison, de faire maintenant des réunions Zoom, Teams et compagnie. Vous préconisez quoi d'ailleurs? C'est quel logiciel que vous utilisez pour faire vos réunions?
Alors, c'est pas bien parce que tout à l'heure on parlait logiciel libre. Sauf qu'aujourd'hui, on fait effectivement, comme Office 365 est quand même pas mal déployé dans les collectivités, aujourd'hui principalement on a retrouvé du Teams. Il est vrai que c'est quand même assez bien fait. Il y a plusieurs choses. En fait, je pense que l'accélérateur, on va le voir maintenant, parce que quand on était le nez dedans, je me souviens au premier confinement, j'étais au bureau le lundi et il fallait que le mardi midi, et déjà à la DICO, on mette tout le monde en télétravail. Nous, on a réussi à le faire et que d'un seul coup, on a 400 collectivités qui nous appellent et qui nous disent demain matin, débrouillez-vous. Donc ça veut dire trouver des VPN, des outils, trouver en tout cas des outils qui permettent à distance d'eux ou des prises en main à distance.
Donc et des VPN, c'est des réseaux privés locaux, c'est-à-dire qu'on se connecte directement à l'ordinateur qui est installé dans sa mairie, par exemple.
Oui, voilà, oui, de chez soi. Mais après, ça pose des problèmes de débit Internet de là où on est. Et puis, ça a posé des gros soucis de sécurité informatique quand on met en place des outils pas sécurisés. La transformation et l'accélération, on la voit là avec des besoins. Là, en ce moment, on est sur une troisième phase de numérisation des registres d'état civil. Hein, la mairie tient quand vous allez vous marier, vous avez un acte de naissance, un acte de décès, etc. En fait, vous allez en mairie et puis la mairie a des registres d'état civil. Et là, en ce moment, on a des gens sur le terrain, ils sont en train de numériser, on est à 60 000 actes En fait, lors de la première phase, on avait numérisé 400 000 actes sur le département de l'Oise. Là, on est en train de renumériser 60 000 actes. Concrètement, comment ça se passe? En fait, on demande aux élus d'aller dans des points de concentration, des points un peu par canton. On a des gens sur place avec des scanners à plat, là, et qui sont en train de numériser registre par registre. Ensuite, ça repart chez un prestataire, là, ce n'est pas nous qui le faisons, qui va indexer un prestataire dans l'est de la France. L'indexation, c'est quoi? C'est le nom, le prénom, enfin tous les...
C'est fait automatiquement, c'est une reconnaissance automatique ou il y a un humain derrière?
Non, non, c'est une reconnaissance automatique, mais il y a un contrôle. En fait, à quoi ça sert derrière? Ça sert quand vous allez devoir refaire votre passeport. On va vous demander la copie de votre acte de naissance. En fait, au lieu d'aller au moire, prendre le document, le mettre dans le copieur, abîmer le registre. En fait, vous allez dans votre logiciel, vous allez dire « Bonjour, je m'appelle Vivet Emmanuel, je suis né à tel endroit » et on va vous rééditer automatiquement. Et comme maintenant, entre les mairies, l'échange se fait de façon sécurisée, bah en gros, l'usager, quand il va arriver en mairie, il va dire « Bonjour, bah moi, imaginons, j'arrive à la mairie de Compiègne, je dis « Bonjour, voilà, j'ai besoin de refaire ma carte d'identité, mais je ne suis pas né ici, je suis né en Normandie. » On va dire « Mais il n'y a pas de souci, je m'en occupe. » C'est-à-dire qu'en fait, c'est maintenant la mairie de Compiègne qui va se mettre en relation dématérialisée avec ma mairie de naissance pour récupérer mon document. Alors qu'avant, on rappelle, c'est quelque chose qui est en train de se déployer par le ministère de la Justice. C'est une plateforme, attention, un bel acronyme qui s'appelle COMEDEC. Mais c'est intéressant parce que COMEDEC, en fait, c'est une sorte de hub, d'un endroit où vont circuler les données entre la mairie et les notaires pour tout ce qui est acte de décès, les mairies et les CAF pour tout ce qui est naissance, et entre mairies sur les échanges. Par exemple, les échanges de mentions. Quand vous vous mariez, vous apposez une mention sur un document. Quand vous divorcez, vous apposez une mention sur un document. Donc tout ça, en fait, se fait de façon dématérialisée.
Vous accompagnez également sur l'équipement. Aujourd'hui, est-ce que les mairies sont bien équipées? Est-ce qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir des PC fixes, on passe aux ordinateurs portables, aux laptops? Est-ce que, du coup, il y a une réflexion là-dessus sur les tablettes, sur les téléphones portables qui sont devenus un petit peu un troisième bras et puis un deuxième cerveau?
Oui, alors nous, effectivement, on est sur les postes informatiques des collectivités. Et là, aujourd'hui, on voit réellement les PC portables. C'est encore un révélateur de la crise sanitaire. Il est beaucoup plus simple de fermer son clapet du PC portable et de partir avec que de démonter ma tour et mon écran. Donc là, on a vu un gros renouvellement. Ce qui fait que d'ailleurs, aujourd'hui, essayer de trouver des stocks portables, ça devient compliqué. Là, on avait besoin de commander 250 PC portables. D'ailleurs, en 10 ans, c'est la première fois que je signais une commande aussi importante pour 250 PC portables. On s'est un petit peu battu sur les stocks.
Donc j'imagine que les prix augmentent.
Mais en fait, la négo qu'on a eue, c'était qu'avant que ça augmente,
c'était
on commandait tout de suite parce que le grossiste nous disait « j'ai actuellement 300 volumes, vous en prenez combien ?»
C'est quoi les marques aujourd'hui? C'est toujours Dell qui est un peu le leadership ou pas?
Oui, là, typiquement, justement, sur le volume qu'on vient d'acheter, c'est du Dell. C'est Dell qui nous a proposé, effectivement, la meilleure tarification. Là, en ce moment, il y a une très, très grosse opération qui est la partie école numérique parce que, en fait, on s'occupe des mairies et on s'occupe aussi des écoles, on s'occupe potentiellement des médiathèques, des bibliothèques. Mais là, en ce moment, je pense que tout le monde a un petit peu entendu parler de France Relance. France Relance, c'est l'État qui, via l'Europe, libère de l'argent pour un certain nombre de projets. Ça peut être des projets écologiques, ça peut être des projets différents. Mais ça concerne aussi la transformation numérique des collectivités et ça concerne l'éducation nationale. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, dans l'Oise, il y a eu 140 mairies qui ont eu un accord de financement, là, il y a 15 jours, pour s'équiper en informatique. Donc, l'équipement informatique d'une école, c'est quoi? Ça peut être des VPI, des vidéoprojecteurs interactifs, ça peut être des tableaux interactifs pour animer un cours, en fait, interactif. Ça ne remplace pas totalement le tableau. Et d'ailleurs, généralement, quand on installe, nous, dans les écoles, on n'enlève pas le tableau blanc ou le tableau à créer. C'est complémentaire. Ou alors, c'est aussi des PC portables ou des tablettes, des caissons, vous savez, dans lesquels vous avez une quinzaine, et ça, par classe. Le financement de l'État est assez important pour les collectivités qui ont déposé des dossiers, puisque c'est 70% de financement pour les collectivités. Donc là, c'est 140 écoles qui verront d'ici la rentrée des équipements arriver.
Donc il va falloir former les profs après. Il faut que l'État forme les profs.
Et c'est là où, effectivement, nous, on n'intervient que sur la partie matérielle, installation. Et d'ailleurs, c'est ensuite l'Éducation nationale, de par son organisation locale, qui va former les enseignants.
Ça me permet de rebondir sur l'association Déclic, parce que j'imagine que tout ça, là, vous le faites à l'échelle du département de l'Oise, mais également d'autres départements limitrophes. Comment ça se passe pour que le matériel dans les écoles soit le même à Compiègne et soit le même, je ne sais pas, dans le sud-ouest, pour que les profs, s'ils déménagent, ils aient un peu le même matériel et la même formation ?
Alors, ça fait effectivement, et on va parler de Déclic, mais sur cette partie-là, en fait, dans le cadre du cahier des charges qu'a sorti le ministère de l'Éducation nationale, il y a eu une négociation nationale pour définir ce qu'était l'école numérique. Donc, en fait, ils ont sorti un cahier des charges en disant, voilà, une école numérique, c'est, alors pas forcément de marque, mais en tout cas, c'est des PC, c'est un tableau. Ce qui est mis aux collectivités quand elles se sont... aux collectivités quand elles ont fait ces choix, en fait, d'investissement, de savoir vers quoi elles devaient aller. Ça, c'était une vraie demande des élus en disant « Ok, mais moi, je veux bien investir, mais quel est le cahier des charges, effectivement ?»
Et donc, avec Déclic, là, votre réseau d'échanges d'informations entre structures, qu'est-ce que vous proposez, là, cette fois, d'un point de vue national ?
Ben, en fait, plus on est nombreux, plus on est fort. Et aujourd'hui, la Fédération Déclic, alors c'est aussi une association donc, que je préside depuis maintenant 2 ans, en fait, elle regroupe 47 structures équivalentes à l'ADICO au niveau national, qui sont soit des structures départementales ou régionales. Ça représente à peu près 18 000 collectivités locales en France. En fait, nous, on est ce qu'on appelle, nos structures, dont la DECO, on est ce qu'on appelle les OPSN, opérateurs publics de services numériques. C'est-à-dire que notre seul métier, c'est d'aider les collectivités dans leur transformation numérique. Et on est soit des associations comme la DECO, mais en fait, la plupart, ce sont ce qu'on appelle des structures publiques, des syndicats mixtes ou des agences techniques départementales ou des groupements d'intérêt public. Voilà. Ce sont 46 structures, Mégalis Bretagne, l'Alpi dans les Landes, le SMICA en Aveyron, le SICTIA à Manille. Voilà, je ne vais pas citer les 47, mais la TD 24, c'est l'agence technique départementale du 22 de la Dordogne. Donc, en fait, il y a 10 ans, on a décidé de se fédérer, tout simplement parce que je vais donner un exemple avec la CNIL. Donc la CNIL, qui aujourd'hui encadre le RGPD, aujourd'hui, la CNIL a un agenda, et les agents sont débordés parce qu'il y a beaucoup de sollicitations, et que la CNIL nous dit aujourd'hui, mais avec plaisir, on échange ensemble. Par contre, je préfère échanger avec Déclic, et Déclic redescend auprès de ses membres. Donc d'ailleurs, demain, oui, mercredi, j'ai quelqu'un de chez moi et du CD et du 59 qui ont rendez-vous à la CNIL pour faire un bilan annuel de notre partenariat. Donc en fait, Déclic, aujourd'hui, a un certain nombre de partenaires. Nous sommes partenaires de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer Guillaume Poupard et de signer une convention de partenariat. On est partenaire de l'INCRT, qui est l'Institut national de la cyber-résilience des territoires, partenaire de la CNIL, et ensuite on siège dans tous les différents ministères qui traitent du numérique. Et aussi au sein de ce qu'on appelle la DINUM, sur un certain nombre, donc la DINUM, Direction interministérielle au numérique. C'est énorme. Hein. C'est pour ça que quand tout à l'heure je vous disais lexique de 200, c'est impressionnant.
On mettra le lexique sur Internet.
Donc voilà. Donc Déclic, en fait, c'est ça. C'est le principe de dire plus on est fort, plus on est nombreux, plus on est fort. Donc on échange ensemble sur nos bonheurs, nos malheurs. Et puis j'ai la chance de présider, d'avoir été réélu là, il y a maintenant un mois à la présidence de Déclic. Donc en fait, on a tous les mois des échanges. On est en train d'organiser nos rencontres à Vannes au mois d'octobre pour aller parler.
C'est pas
un peu.
Numérique, vous faites pas à distance.
Ouais, de temps en temps, ça fait du bien de se voir. On a fait nos e-rencontres au mois de mai, une journée complète avec les différents ministères. On a échangé sur la carte nationale d'identité électronique, parce qu'elle arrive. Le ministère de l'Intérieur est venu nous présenter un petit peu ce que c'était que cette identité numérique des citoyens. Et quel impact on aura pour les collectivités. Et puis, de temps en temps, ça fait du bien de se voir. Donc, on fait nos rencontres à Vannes.
Vous faites également des enquêtes nationales, des enquêtes un peu plus locales également. Je crois qu'il y en a une qui est sortie en février dernier pour ADICO.
Ouais.
Qu'est-ce que vous recherchez comme information ? C'est un petit peu une cartographie de comment des évolutions
Alors, il y avait deux choses. Il y avait aussi le fait de... Parce qu'on est sur... Il y a 46 structures, ça veut dire que toute la France et tous les départements ne sont pas couverts par des structures de mutualisation informatique sur la partie usage. Donc, on essaye de convaincre, en fait, les autres départements ou les autres régions. Et l'étude avait pour fonction de dire... Est-ce qu'il est vrai de dire que là où il y a une structure, la transformation numérique est accélérée ou pas ? Alors, la réponse est oui, on l'a prouvé par l'étude. Donc, on avait pris deux cabinets extérieurs et prouvé que l'étude était faite de façon sérieuse. Donc, on s'est appuyé sur deux cabinets et les résultats de l'enquête ont permis de prouver qu'au niveau national, c'était le cas. Et ensuite, on a fait ressortir la même étude quelques mois après. On a refait faire une étude pour la partie spécifique des Hauts-de-France. Pour montrer que sur les Hauts-de-France, c'est une des spécificités de la région, c'est que tous les départements, en tout cas toute la région, est couverte par des structures de mutualisation. Somme numérique pour le département 80, le conseil départemental de l'Aisne et la fédération, une fédération locale. Pour le 59, le 62, on a ce qu'on appelle CDG 59, CDG 62. Quand on parlait tout à l'heure de formation, c'est les centres de gestion de la fonction publique territoriale. Et on a aussi ce qu'on appelle un syndicat qui s'appelle FIBRE. Donc là, ça parle un peu plus, 59. Donc l'idée, c'est de montrer que grâce à la mutualisation, on va un petit peu plus vite et que les collectivités sont mieux accompagnées.
Là, aujourd'hui, les collectivités qui sont le moins bien dotées, c'est quoi ? C'est vraiment les communes rurales, vraiment les communautés, enfin les villes où il y a 300, 200 habitants, c'est ça ?
Oui, alors... Oui, on a aujourd'hui un taux d'équipement assez important. Simplement, c'est que la volonté de l'État et la transformation numérique va très très vite. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut arriver à suivre le rythme. Typiquement, cette semaine, mardi après-midi, on réunit entre mardi et le jeudi, d'ailleurs, cette semaine, on réunit 150 collectivités à distance ce coup-ci, avec les finances publiques, avec la direction départementale des finances publiques, pour leur présenter la nouvelle norme comptable. Les collectivités vont changer de norme comptable. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que quand on parle de l'État au niveau numérique, en fait, on a autant de ministères que de projets. Ça veut dire qu'il faut arriver à suivre. Donc, autant quand vous êtes dans une grosse collectivité, si vous allez avoir une réforme de l'état civil, vous allez traiter avec le service état civil. La difficulté dans une petite collectivité, c'est que la même personne, elle va devoir se faire la réforme de la compta, de la paie, des élections, de l'état civil, des marchés publics, etc. etc.
De la bibliothèque. Etc.
Voilà, c'est ça en fait la difficulté.
Merci beaucoup pour cette heure de nous avoir parlé donc de Adico et également de l'association Déclic. On retrouve des informations sur Internet. J'imagine que vous avez un site Internet, enfin deux sites Internet même.
Oui, tout à fait. Donc www.adico.fr. Et puis www.asso-déclic.fr pour les deux sites.
Et vous êtes également actif sur Twitter, puisqu'on en a échangé sur Twitter
pour
le rendez-vous. C'est important aujourd'hui pour les collectivités d'être sur Twitter, par exemple ?
Alors, on a plus des individus. Quand je parle d'individus, c'est-à-dire des élus ou des agents que l'on retrouve plutôt que l'entité collectivité locale. Même si, il y a des sites assez actifs comme Ermenonville, hein, qui a un compte Twitter assez actif et d'autres collectivités plus importantes forcément. Et on retrouve beaucoup d'élus, effectivement, sur Twitter.
Et là, pour les auditeurs qui recherchent un emploi, quels sont les postes que vous allez proposer à...
Alors, en ce moment, il y a un poste de délégué à la protection des données. Donc là, on est plus sur des profils juristes. On a un poste administratif dans la relation avec les administrés, tout ce qui est facturation. On aura en fin d'année, par contre, un poste sur la partie communication. Lui, il ne s'ouvre qu'en fin d'année. Et on a encore un poste de hotliner qui est encore en cours, qui n'est pas affecté. Donc la hotline, ce que je disais tout à l'heure, c'est la partie aider les collectivités sur l'utilisation des logiciels métiers. Et là, c'est nous qui formons les personnes que l'on recrute.
On vous contacte via votre site, via LinkedIn ?
Oui, alors il y a une adresse mail dédiée recrutement au singulier @adico.fr. Ou l'adresse contact@adico.fr. Et l'ensemble de nos annonces sont publiées sur Pôle emploi et Indeed.
Et pour les maires qui nous écoutent, ou les mairesses qui nous écoutent, ou les élus qui souhaitent adhérer à votre association, comment ça se passe ?
On vient avec grand plaisir leur expliquer. Pour le département de l'Oise, on est sur 88% des collectivités adhérentes. On n'a effectivement pas encore 100%. Mais effectivement, voilà, donc toujours les mêmes adresses, l'adresse contact, ou alors venir nous voir sur Beauvais. On a des très beaux locaux sur Beauvais, d'ailleurs, qu'on est en train d'étendre. On a repris 400 mètres carrés il y a 15 jours. Donc on est à plus de 1000 mètres carrés de bureaux, une très belle salle de réunion et on accueille avec grand plaisir chez nous.
Merci beaucoup Emmanuel Vivet d'être venu ce matin sur Radio Graphite. Si vous avez pris l'émission en cours de route, elle est réécoutable en podcast sur le www.graphite.net. Des petites informations pour ce soir le Bordelot, donc l'association du Bordelot à Marny-les-Compiègne vous proposera une rencontre avec la compagnie Peut-être qui présentera son projet qui s'appelle Capsule de mémoire. L'objectif est de créer une déambulation théâtrale à partir de la mémoire collective du quartier, donc de la gare, de l'allée des Roses de Picardie et du Bordelot. Ensuite vous retrouverez le Bordelot, il y a toujours une activité chaque jeudi pendant le mois de juillet, le mois d'août et le mois de septembre. Et nous, bah, on se retrouvera le jeudi 1er juillet au bord de l'eau pour une émission en direct avec la directrice de la faïencerie, de la Grange à musique et du Festival des Forêts. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Et nous, on se quitte avec un groupe local, ça s'appelle Macho, ça va vous réveiller. On écoute le titre Counterfeit. Merci.
Merci.